Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce samedi 10 juillet 2021. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Une délégation parlementaire à Damas. Une dizaine de manifestants palestiniens ont été blessés lors d'affrontements avec des soldats israéliens dans plusieurs villes et villages de Cisjordanie. Et au Mali, 245 terroristes ont été tués et 196 autres interpellés ces 6 derniers mois, selon l'armée malienne. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le premier ministre syrien, Hossein Arnous, a rencontré ce vendredi 9 juillet à Abbas Kolrou, vice-président du groupe d'amitié parlementaire irano-syrien et membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère de l'Assemblée consultative islamique qui se trouve à Damas à la tête d'une délégation. Le premier ministre syrien a souligné à cette occasion l'importance d'approfondir les relations parlementaires bilatérales et de renforcer les contacts et les déplacements, ce qui est dans l'intérêt des deux pays et des deux nations. Le gouvernement syrien cherche à promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays et à développer et créer de nouvelles perspectives à la hauteur du niveau des relations stratégiques irano-syriennes, a déclaré le premier ministre syrien. Il a noté que les deux parties s'efforçaient de conclure des accords bilatéraux et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais possibles des projets communs et de surmonter à cette fin les obstacles existants. Pour sa part, Abbas Kolrou, vice-président du groupe d'amitié parlementaire Iran-Syrie, a déclaré que le but de la visite de la délégation parlementaire iranienne à Damas était d'accroître la coordination et la coopération bilatérale et de relever les obstacles à cet effet. Il a souligné que le Parlement iranien accorde une grande attention au développement des relations avec les pays amis et les alliés stratégiques tels que la Syrie. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mirdad, recevant lui la délégation parlementaire iranienne jeudi soir, 8 juillet, avait remercié Téhéran pour son soutien à Damas dans tous les domaines politiques, militaires et économiques. Appuyée par les forces aériennes syriennes et russes, l'armée de la Syrie est engagée dans une opération militaire destinée à sécuriser Asraya, située dans le désert est de Hama, les routes reliant des réseaux à Asraya et des réseaux à Homs, ainsi que les montagnes à la Amour et à la Bochra, selon l'agence presse officielle syrienne Sana. Les forces armées syriennes ont détecté des repères et des caves où s'étaient cachés les terroristes Daesh, indique Sana. Par ailleurs, des hélicoptères de l'armée syrienne ont patrouillé jusqu'aux frontières de l'Irak et frappé les positions de Daesh dans le désert de Syrie. Les forces syriennes ont également fouillé les différentes localités dans l'est du désert de Hama pour identifier les cellules dormantes de Daesh. Lors de cette opération, ils ont neutralisé une importante quantité de mines et saisi du matériel logistique dans les repères de Daesh. Dans le même temps, des hélicoptères russes ont bombardé les lignes d'approvisionnement de Daesh dans le désert de Homs jusqu'à une région située à 55 km d'Al-Tanf. En outre, les forces syriennes ont pris pour cible une position de terroristes à Izarin, en banlieue d'Idlib, par un missile téléguidé Coronet. Un certain nombre de terroristes ont été tués. Des dizaines de manifestants palestiniens ont été blessés vendredi 9 juillet lors d'affrontements avec des soldats israéliens dans plusieurs villes et villages de Cisjordanie, selon des médecins et des témoins oculaires. Les affrontements ont éclaté près du village de Beïta, au sud de Naplouse. Les soldats israéliens ont tiré des balles réelles, des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur les manifestants, qui leur ont jeté des pierres, brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans anti-israéliens, d'après des témoins oculaires. Des médecins du Croissant Rouge palestinien ont déclaré dans un communiqué qu'au moins 83 Palestiniens avaient été blessés. Après les prières du vendredi, une manifestation a éclaté contre un avant-poste de colons en face de Jabal Sabah, dont les occupants avaient été évacués il y a une semaine. L'armée israélienne est néanmoins restée sur place pour des raisons de sécurité. Les habitants lui avaient demandé d'évacuer complètement cet avant-poste, d'en retirer les maisons mobiles et de rendre les terres aux propriétaires palestiniens d'origine. Parallèlement, des dizaines de Palestiniens, dont des enfants, ont été asphyxiés par des gaz lacrymogènes lors d'affrontements avec l'armée israélienne dans le village de Kafr Adum, à l'est de Al-Ridiya. D'autres manifestations ont éclaté dans le village de Beit Jan, à l'est de Naplouse et à Massafariata, au sud d'Hébron, faisant des dizaines de blessés. Au Mali, 245 terroristes ont été tués et 196 interpellés ces 6 derniers mois, selon l'armée malienne. Les différentes opérations menées au centre et dans le nord du Mali par l'armée et ses partenaires du 24 décembre 2020 au 30 juin dernier ont permis de tuer 245 terroristes et d'en interpeller 196, a annoncé vendredi le colonel Suleiman Dembélé, chef de la direction de l'information et des relations publiques des armées, lors d'un point de presse à Bamako. À elle seule, l'opération Malico de l'armée malienne s'est soldée par la mort de 64 et l'interpellation de 104 autres durant cette période. Cette opération vise essentiellement à stabiliser le centre du pays, en proie ces dernières années à des conflits intercommunautaires et à des attaques terroristes contre l'armée malienne, les forces étrangères comme Barkhane et les populations civiles. Elle vise également à neutraliser les groupes criminels et terroristes, soutenir les autres actions de normalisation et empêcher l'expansion du terrorisme vers le sud, a précisé le colonel Dembélé. En ce qui concerne les opérations conjointes avec la force française Barkhane, le responsable de DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, a indiqué que le bilan était de 106 terroristes tués et 52 interpellés. Pour les opérations conjointes avec le G5 Sahel, il est de 75 terroristes tués et 40 personnes interpellées, a-t-il ajouté. Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme, sécuritaire, politique et économique. Les insurrections indépendantistes, puis les incursions terroristes ainsi que les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, malgré la présence des forces onusiennes MINUSMA, françaises Barkhane et européennes Takuba. À l'issue du 5e sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel, tenu ce vendredi 9 juillet par visioconférence, la France a annoncé une réorganisation de son dispositif militaire au Sahel, se traduisant par la réduction de sa présence dans cette région et la fermeture de certaines de ses bases dans le nord du Mali au second semestre de cette année. Selon le président français Emmanuel Macron, la France maintiendra entre 2500 et 3000 hommes dans la région contre 5100 en ce moment. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Mer Noire, la Russie assiégée, évoquant la stratégie américaine visant à acquérir des ressources énergétiques en Asie centrale, un professeur à l'Université de Moscou a déclaré que les tensions dans la mer Noire avaient un impact direct sur la situation en Turquie et en Russie. Suite à l'escalade des tensions entre la Russie et l'OTAN et compte tenu de la situation en Ukraine qui est devenue tendue ces derniers mois, à l'heure actuelle, nous sommes témoins des agissements en mer Noire. Après la tenue des exercices conjoints américano-ukrainiens Sea Breeze 2021, auxquels ont également participé certains pays de l'OTAN, la Russie a fait part de son nouvel exercice dans la région de Krasnodar, sur les côtes de la mer Noire. Le point important à cet égard, c'est ce que la Russie a utilisé le système de défense aérienne S-400 lors de cet exercice. L'analyste Mehmet Perinçek de l'Université de Moscou s'attarde sur les récents développements dans la mer Noire et au sujet des raisons de l'augmentation de la présence des troupes de l'OTAN dans cette mer depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, Perinçek précise. La stratégie américaine la plus importante est d'obtenir des ressources énergétiques en Asie centrale, mais l'obstacle le plus important à la réalisation de cet objectif américain est la présence des pays tels que la Russie, la Chine, l'Iran ou la Turquie qui ont un bon potentiel militaire. Les États-Unis ne seront pas en mesure de mener à bien leur stratégie tant qu'ils ne pourront pas mettre ces pays à genoux. Washington a besoin d'utiliser certaines zones et mers comme passerelle pour avoir accès aux ressources énergétiques de l'Asie centrale. La mer Noire, la Méditerranée orientale, l'Afrique du Nord, le Caucase Sud et le Moyen-Orient font partie de ces zones. La mer Noire est importante pour la politique américaine en ce sens qu'elle peut être utilisée comme base donnant accès aux ressources énergétiques de l'Asie centrale. Une autre raison des agissements des forces américaines dans la mer Noire est d'assiéger la Russie, dit l'analyste. Joe Biden a rendu cette politique publique depuis qu'il a pris ses fonctions à la Maison-Blanche. Il a même clairement indiqué qu'il poursuivrait une politique plus hostile envers la Russie et dans ce sens. Il a présenté à la CIA un personnage qui était auparavant l'ambassadeur des États-Unis en Russie. Même de nombreux politiciens du département d'État américain sont des personnalités qui ont de bonnes relations avec l'Ukraine. Biden poursuivrait bien sûr une politique hostile non seulement envers la Russie, mais aussi contre la Turquie. Il convient de noter que les États-Unis non seulement envisagent d'assiéger militairement et politiquement la Russie en mer Noire, mais appliquent également la même politique à la Turquie. C'est pourquoi les intérêts d'Ankara et de Moscou s'alignent face à Washington. Selon cet expert, les intérêts de la mer Noire appartiennent aux pays qui partagent une côte commune dans cette mer et son avenir doit être déterminé par ces pays. Par conséquent, l'intervention d'une puissance étrangère n'est en aucun cas utile. Alors, la Grande-Bretagne et les États-Unis ne doivent pas s'impliquer dans la question de la mer Noire. La présence des navires américains et britanniques en mer Noire ne vise pas à créer la sécurité et la stabilité, mais à créer des tensions entre les États riverains de la mer Noire et à établir une hégémonie. D'ailleurs, la présence américaine et britannique dans cette mer a également été inefficace. Au moment de la montée des tensions entre l'Ukraine et la Russie, les États-Unis avaient lancé deux navires de guerre dans la mer Noire, mais ils ont dû retourner avant même de traverser les détroits. En effet, la Convention de Montreux contient des dispositions relatives aux raisons et à la durée de la présence des navires de guerre dans cette zone. Du fait que l'arrivée des navires de guerre britanniques et américains n'a rien à voir avec cet accord, ils ne réussiront jamais à avoir une présence et une souveraineté permanente en mer Noire. Selon Mehmet Perinçek, l'objectif américain en mer Noire est d'assiéger la Russie et la Turquie. Mais la Convention de Montreux ne fournira pas cette occasion aux États-Unis. Et une autre tactique américaine en mer Noire consiste à dresser la Turquie et la Russie l'une contre l'autre pour empêcher une alliance entre ces deux pays. Les actions provocatrices américaines visent non seulement la Russie, mais aussi la Turquie. Même la présence américaine en Syrie est dans l'objectif de chercher à démanteler l'Iran, la Turquie et l'Irak.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler des élections régionales en France avec un taux de participation d'abstention de 68%, un record. Donc, c'est un signal fort des Français vis-à-vis de leur gouvernement. En effet, jamais les Français se sont montrés si désintéressés vis-à-vis des projets politiques en France. Et parallèlement à cela, nous avons les élections présidentielles en Iran qui se sont déroulées presque au même moment, avec une participation très enthousiaste des Iraniens à ces élections. Alors pourquoi nous comparons ces deux élections? Car le président français Emmanuel Macron s'est permis de mettre en cause les élections présidentielles en Iran, ce qui est donc l'ironie. Donc, nous allons essayer de développer cette question à l'aide des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Vous restez avec nous, je vous prie.
Le 27 juin dernier, les citoyens français ont été appelés à voter pour le second tour des élections régionales et départementales. Mais au-delà des résultats du parti présidentiel, La République En Marche, qui a été largement au-dessus des attentes avec à peine un peu plus de 10%, ce sont des abstentionnistes qui ont attiré tous les regards. Depuis quelques années, on assiste en France à un phénomène de rejet de tous les projets politiques, qu'ils viennent de la gauche ou de la droite. Même les électeurs de partis extrêmes, pourtant beaucoup mieux organisés et plus mobilisés, semblent bouder les urnes. Et comme à chaque fois, la classe politique semble s'émouvoir en appelant à un sursaut républicain, sans jamais pour autant se remettre en cause, en changeant radicalement de comportement. Il faut se rappeler que la base d'une démocratie républicaine est d'abord ses électeurs, qui votent et qui donnent mandat à des représentants pour gouverner, agir et réaliser des actions qui contribuent au bien-être de la société. Mais en l'absence de sa matière première, la légitimité du système politique disparaît. De son côté, en réaction à la victoire d'Ebrahim Raisi, président élu de la République islamique d'Iran, avec une écrasante majorité des voix, le gouvernement de Macron, qui vient d'encaisser un échec électoral historique, manifesté par un fort taux d'abstention de 68%, a annoncé par la voix de sa porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'avoir pris acte de l'élection d'Ebrahim Raisi à la présidence iranienne, tout en répétant ses fausses allégations en matière des droits de l'homme en Iran. Paris est-elle bien placée pour donner des leçons aux autres nations ?
Alors voilà pour le reportage. Merci de rester avec nous. Nous allons développer cette question tout au long de ce débat à l'aide des experts des questions internationales, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Et bonjour à vos auditeurs et à M. Hugon.
Un plaisir de vous recevoir, M. Pierre Dortiguier. Un grand bonjour.
Merci.
À M. Philippe Hugon, reporter de guerre et analyste des questions internationales depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Oui, bonjour à tous vos auditeurs, bonjour à Pierre Dortiguier.
Bien, alors ma première question va s'adresser à M. Pierre Dortiguier depuis Toulouse. M. Dortiguier, nous étions témoins d'un taux de participation très très faible en France, dans les régionales, avec 68% d'absents, donc, dans ces élections, et où doit-on chercher ce désintérêt massif des Français à ces élections?
Eh bien, pour répondre le plus clairement possible, dans le désaveu de la politique en général. C'est-à-dire les Français subissent une crise et ils comprennent très bien que les politiciens sont absolument incapables de la gérer, de l'exposer dans sa vérité. Ils la subissent eux-mêmes tous les jours, ils craignent pour leur emploi, et nous craignons en particulier des résultats pour ce mois de septembre, parce que lorsque les aides données aux classes moyennes, par exemple, auront cessé, et là où nous serons obligés, disons, de constater de nombreuses faillites, la vie devient de plus en plus difficile. Et donc, c'est la qualité des hommes, je crois, qui fait que les Français, des hommes politiques, j'entends, qui fait que les Français n'ont pas confiance. C'est beaucoup plus un désintérêt qu'une hostilité. Je ne vois pas d'autres raisons. Et le fait, par exemple, que des électeurs se prennent, ce ne soit pas déplacée, en particulier dans la jeunesse, montre que vraiment ce régime que nous connaissons est un régime qui administre une crise, mais ne veut pas la reconnaître telle qu'elle, n'en explique pas les fondements, et surtout n'instruit pas, ne forme pas, disons, ne mobilise pas le peuple dans le dessein de surmonter cette crise. En fait, voyez-vous, nous avons affaire à des gens très, c'est l'impression des Français, à des gens, disons politiques locaux, je veux dire, en particulier dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, qui finalement, disons, ne sont là que pour durer, mais n'ont aucune ambition, et sont surtout, disons, domestiqués, si je puis dire, ou paralysés par des formules creuses, abstraites, de style maçonnique, voyez-vous, sur l'égalité, la fraternité. Monsieur Macron dit que la société française est trop racialisée, etc. Tout ceci, vraiment, sont des absurdités. Et je dirais, comme l'a dit votre présentatrice, très bien, que ça ne justifie absolument pas l'arrogance dont font preuve certains hommes politiques chez nous, envers Guérand, par exemple. Voyez-vous, on ferait mieux se connaître soi-même, voyez-vous, plutôt que de juger une situation ou un pays que personne ne connaît véritablement ici, mais qui sert, disons, de ces déclarations, disons, sont vraiment ce qui est le plus agaçant, peut-on dire, dans notre tempérament national.
Oui. Bien, M. d'Ortiguier, alors je m'adresse à M. Philippe Hugon. Vous êtes avec nous depuis Paris. Alors, nous avons entendu les propos de M. Pierre d'Ortiguier à propos de ce taux d'abstention record, 68%, donc dans les régionales en France. Alors, d'après vous, M. Hugon, jamais les Français se sont montrés si désintéressés vis-à-vis des projets politiques en France. Alors, qu'en pensez-vous après tout?
Ah bien, d'abord, les projets politiques en France n'existent plus. Il faut bien savoir qu'il y a 40 ans en arrière, vous aviez des partis politiques avec des idées très, très marquées. Vous aviez des groupes qui défendaient leurs propres idées. Alors aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il faut bien savoir qu'il y a deux questions que se posent les politiciens quand ils se lancent en politique. C'est comment conquérir le pouvoir et comment le conserver. Donc les convictions ne sont plus vraiment au goût du jour. Ce n'est plus vraiment ce qui va motiver un politique de vouloir changer un certain nombre de choses. D'autre part, il y a le fait que la France appartient à l'Europe et qu'un certain nombre de décisions qui pourraient être prises en France ne sont plus d'actualité dès que ces décisions arrivent au Parlement européen, puisqu'elles peuvent être totalement contrées et modifiées. Donc le désintérêt pour la classe politique est réel. Pour une raison toute simple, c'est que les choses ne changent pas. Et alors vous pouvez faire une enquête sur les électeurs français, et bien ils vous répondront exactement la même chose.
Philippe Hugon,
aller voter, oui.
Philippe Hugon, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un effondrement de la démocratie en France?
Ah oui, mais vous savez, on n'est plus dans une démocratie en France. Hein. On est dans une dictature. On est dans une dictature douce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force armée ou de fer d'assaut dans les rues. Mais néanmoins, on subit la dictature européenne et on subit la dictature financière. Donc on n'a plus du tout une classe politique qui aujourd'hui est capable d'imposer un certain nombre de lois pour deux raisons. La première, c'est qu'elle ne peut pas agir parce que le Parlement européen sera derrière. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne prendront jamais le risque de vouloir changer les choses de peur de perdre les futures élections qui arriveront quelques mois ou quelques années plus tard. Donc on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Et je vous dis bien, on est aujourd'hui dans une dictature douce, donc on impose financièrement un certain nombre de choses. Le Parlement européen impose également un certain nombre de choses, ce qui permet aux politiciens français, quand ils doivent rendre des comptes à leurs électeurs, de dire « mais moi j'aurais voulu le faire ». Mais le Parlement européen refuse un certain nombre de choses. Donc il se dédouane de toute responsabilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une politique sans relief et une politique qui ne changera pas, puisqu'on est pris dans une espèce de mélasse politique qui fait que plus personne ne peut bouger. Et les seules personnes qui voudraient faire bouger les choses mettraient leur raison pour laquelle il y aura de plus en plus de défections de la part des électeurs français, puisque quel que soit le candidat pour lequel ils voteront, eh bien, rien ne changera. La base du problème, elle est là. Et si, il y a 40 ans, les gens avaient cette envie de voter, c'était parce que certaines choses pouvaient changer, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Absolument. Bon, nous avons une forte raison de penser que les Français ont bien compris ce que vous avez dit, M. Pierre Dortiguier et M. Hugon, à ce propos, car ils ne se sont pas présentés aux urnes. Alors, parallèlement à ces élections régionales en France, j'aimerais qu'on parle des élections présidentielles en Iran, qui ont coïncidé presque parallèlement. Et là, avec donc beaucoup de présence des Iraniens, avec beaucoup de participation enthousiaste chez les Iraniens, malgré les sanctions et tous les problèmes qui existent. Alors, on a été témoin d'une très grande vague de félicitations de presque tous les pays du monde à Ebrahim Raisi, le président élu. Donc, ça parle donc pour soi-même quand on a une si grande vague de félicitations de la part de la plupart donc, des pays européens et africains et américains. Là, on voit très bien le soutien de ces pays-là à ces élections, alors que le président français se permet de compromettre ces présidentielles. Qu'en pensez-vous, M. Dortiguier ?
Justement, vous l'avez très bien dit, nous sommes là dans une position tout à fait ridicule, mais il faut voir le fond des choses. Le fond des choses qui fait la différence entre la France et l'Iran, de même qu'entre la France et d'autres pays, mais prenons votre patrie, l'Iran, c'est qu'en Iran, les électeurs choisissent une personnalité. Ils lui choisissent une volonté qui permettra, disons, de sortir, disons, des embarras extérieurs en premier et intérieurs, qui en sont la conséquence. Donc, ils ont affaire, ils choisissent des personnes. Et je crois que les querelles ne sont pas des querelles entre des programmes, pour qu'on en dise, mais des querelles entre des capacités, qui sont des capacités personnelles. Je crois cependant que chez nous, ce n'est pas le cas. Par exemple, la question à l'Iran est de savoir comment peut-on, de façon avec une union patriotique, dépasser les intérêts privés, dépasser certaines façons de faire qui sont, disons, contraires à l'intérêt général, tout cela. Ceci sont des questions claires. L'électeur peut comprendre, que l'électeur peut sentir, disons. Mais chez nous, nous avons d'abord des gens qui ne disent pas, comme à l'Iran, par exemple, voilà quel est l'état de la situation, voilà quel est l'état, quelle est notre situation. Non, on ne dit rien. On prétend que les choses se passent. Certains disent, comme M. Hugon l'a bien dit, que c'est l'Europe qui est notre obstacle. Mais ce qu'on oublie en premier, c'est que l'Europe est à notre secours, puisque nous sommes un des pays, si ce n'est le pays, le plus endetté de l'Europe de l'Ouest aujourd'hui. C'est ça qu'il faut voir. On n'ose pas dire, les Français le savent, mais on n'ose pas dire aux Français, voilà quel est l'état de vos finances, voilà quel est l'état depuis des années que M. Raymond Barre et d'autres personnes avaient déjà dénoncé autrefois. Voici quelle est vraiment la situation. Nous empruntons de l'argent chaque mois sur des marchés internationaux pour pouvoir payer nos fonctionnaires. Voilà quel est véritablement le discours que les Français aimeraient entendre, avec naturellement des solutions, c'est-à-dire devant eux des caractères. Les gens qui disent, nous sommes décidés à faire ceci ou à faire cela, et non pas à se dissimuler derrière, soi-disant, des engagements européens. Ce sont des engagements, en fait, d'un homme endetté vis-à-vis de ses créditeurs. Le créditeur européen étant, c'est pas la peine de faire un mystère, étant l'Allemagne. L'Allemagne qui est la vache à lait de l'Europe, bien sûr. Ce n'est pas du tout une injure, hein, mais c'est véritablement une constatation. Alors, c'est la grande différence donc entre la France et l'Iran, c'est que nous sommes en Iran dans une atmosphère qui est réaliste, tandis qu'ici, nous sommes dans une atmosphère en France qui devient irréaliste. Et je comprends très bien que la jeunesse en particulier se désintéresse complètement de la politique parce qu'il n'y a plus de vraie politique. Je ne crois pas que M. Hugon me contredise là-dessus. C'est que cette politique que nous avons connue autrefois, voyez-vous, avec les personnalités, elle n'existe plus. Alors, elle n'existe plus pour des raisons données. Bien sûr, on peut mettre en cause des présidentielles, des présidences précédentes, oui. Mais je crois qu'il y a là quelque chose de très grave pour les Français, en tout cas, c'est-à-dire une sorte de perte de confiance en soi et qui pourrait déboucher sur des désordres, non pas une révolution, mais des désordres. Alors qu'en Iran, justement, ce qui a été autour, disons, de l'élection d'Ebrahim Raisi, c'est justement une volonté de s'affirmer contre l'étranger qui est agresseur et de s'affirmer également comme peuple à l'intérieur pour pouvoir justement dépasser les contradictions et dépasser les faiblesses qui sont apparentes.
Absolument. Philippe Hugon, j'aimerais beaucoup connaître votre avis sur la question. Le président français qui se permet donc de juger les élections présidentielles en Iran avec donc beaucoup de participation enthousiaste. Et est-ce que la France a les moyens et a le droit de donner des leçons à d'autres pays alors que nous étions témoins d'un taux d'abstention de 68%?
Oui, alors vous savez, ce sont toujours les gens les plus mal placés qui se permettent de juger les autres. Alors pourquoi est-ce qu'il y a qui se rendent aux urnes en question toute simple à répondre, hein. C'est simple, très motivé par ces élections, candidats qui reprennent, et ce ne sont pas des paroles lancées en l'air, véritable programme politique, et ils ont surtout le courage politique d'imposer leurs idées, ce qui aujourd'hui en France n'existe pas. Donc quand j'entends Macron parler et critiquer le gouvernement iranien, moi je rigole vraiment quand j'entends ça, puisque c'est surréaliste d'entendre un président qui ne fait rien et qui laisse couler le navire face à un nouveau président qui veut changer les choses et qui va changer un certain nombre de choses, puisqu'il n'est pas englué déjà dans des scandales financiers comme le sont la plupart des politiciens français, donc ils n'ont déjà pas ce problème-là sur les bras, et surtout ils ont de réelles convictions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe, mais ils ont de réelles convictions pour changer les choses dans leur propre pays. Ce qui n'est bien sûr plus le cas en France aujourd'hui. Vous mettez à tous les candidats qui se présentent, que ce soit Macron ou un autre, la réelle politique, elle est bien là, et ils ne peuvent plus rien faire. Et ils ne veulent surtout plus rien faire. Pour ça, il faudrait avoir un grand courage politique et le courage de se mettre en danger par rapport aux futures élections. Et ça, ils ne veulent absolument pas prendre le risque de mettre leur culture, leur carrière politique en danger, puisqu'ils vivent avec ça. Donc aujourd'hui, les politiciens, être politicien, c'est devenu un véritable métier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils font ça pour gagner leur vie et pour avoir, pour leur ambition personnelle. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Donc dans un pays comme l'Iran, évidemment, ils seraient immédiatement sanctionnés par les électeurs s'ils faisaient un peu n'importe quoi. Et en France, ce n'est pas du tout le cas. On voit, quel que soit le président, les choses ne changent pas et ne changeront pas. Alors ils parlent beaucoup à la télévision, ils n'agissent bien sûr très peu et n'ont aucune conviction. Donc malheureusement, on arrive à une situation qui est totalement sclérosée et on arrivera à un effondrement général dans quelques années par le manque de décisions, de réelles décisions prises en France et par l'inertie que représente la politique française.
Tout à fait. Pierre d'Ortiguier, j'aimerais que vous parliez à présent de cette vague de félicitations du monde entier, donc vis-à-vis de ces élections présidentielles en Iran. Et beaucoup de pays donc ont félicité en exprimant leur soutien donc à ce nouveau président Ibrahim Raisi. Alors même, il serait bon de parler aussi du roi de la Jordanie, qui a également été parmi les premiers à féliciter Ibrahim Raisi, un pays qui, nous savons tous, qui est un pro-américain et pro-israélien même. Et là, on a l'impression, on a beaucoup de soutien du monde entier. Donc, c'est un changement de cap, à votre avis, Pierre d'Ortiguier?
Oui, c'est un changement de cap, peut-on dire, oui. Et en ce qui touche la Jordanie, vous avez l'honneur de vos collègues avec l'honneur de... Il m'a fait l'honneur, disons, de répondre à ce sujet, car j'ai connu la Jordanie il y a de cela très longtemps, lorsque j'ai eu 30 ans. Et c'est un pays qui n'a pas du tout surpris. On dit, bien sûr, que c'est un pays occidental qui est entre les mains, au départ, de l'Angleterre, vous savez, qui est une sorte, qui administrait, disons, des tribus bédouines, alors qu'ensuite, ce pays est devenu, en très grande partie, habité par des réfugiés palestiniens qui forment
Pierre d'Ortiguier, nous vous entendons très mal. Si vous permettez, je vais m'adresser à M. Philippe Hugon depuis Paris. Alors, M. Hugon, votre analyse sur cette question que beaucoup de pays, même des pays qui sont pro-américains, n'ont pas hésité de féliciter Ibrahim Raisi pour le présidentiel.
Oui, alors, en ce qui qui concerne, vous avez abordé le problème de la Jordanie, je pense que c'est un très bon exemple. Les Jordaniens étaient bien sûr pro-américains, et je pense qu'aujourd'hui, cette tendance est en train de s'inverser, puisque je pense que le roi de Jordanie se rend bien compte aujourd'hui des limites du système américain, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il se rend compte que l'Iran est devenu un partenaire comme un autre, hein, comme n'importe quel autre pays. C'est un pays qui compte et qui va compter de plus en plus au Moyen-Orient. Donc il est nécessaire qu'un grand nombre de pays régularisent et normalisent leurs relations avec la République d'Iran. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ce pays serait boycotté. Et s'il l'était jusqu'à présent, c'était parce que les Américains décidaient de boycotter l'Iran sur un plan économique, financier, pétrolier. Donc c'était vraiment un très mauvais procès d'intention, d'autant plus que quand on veut faire évoluer un pays ou quand on veut normaliser ses relations, ce ne sont pas les critiques idiotes qu'ont pu faire certains chefs d'État français et américains notamment, et de critiquer bêtement un pays qui essaye de sortir de ces restrictions et de ces sanctions imposées par l'ONU notamment, sanctions totalement injustifiées d'ailleurs. Donc je rappelle quand même qu'aux États-Unis, il y a 6 millions de SDF, donc quand on est là, on ferait mieux de se taire que de faire la morale à un pays comme l'Iran. Donc c'est ce sont des critiques qui sont totalement injustifiées. Et je souhaite que tous les pays dans le monde normalisent leurs relations avec l'Iran. C'est ce qui est en train d'arriver. Ça doit certainement contrarier un certain nombre de pays occidentaux, mais la réalité, elle est bien là. Et ils ont raison de normaliser, je le dis bien encore une fois, ils ont raison de normaliser leurs relations avec l'Iran, qui est un partenaire commercial, qui est de premier plan. Et je rappelle qu'en Iran, les gens, contrairement à ce que l'on peut penser, est un pays évolué avec des stations de ski, avec des Iraniens qui voyagent à travers le monde. Et arrêter de trouver des excuses, simplement pour des raisons d'ambition personnelle de certains dirigeants de pays occidentaux, et d'imposer des sanctions qui ne sont plus du tout d'actualité aujourd'hui.
Absolument. Pierre Dortiguier, excusez-moi de vous avoir interrompu, on a eu un problème de liaison. Poursuivez, je vous prie, Pierre Dortiguier.
Oh bien, je disais donc, pour terminer sur la Jordanie, je disais donc que Jordanie est un exemple encore de l'exemple d'un pays réel, par exemple, par rapport à un pays, disons, qui a des obligations politiques depuis sa naissance, puisqu'il a été, à son berceau était l'Angleterre, il a été, oui, après les États-Unis. Mais disons que le peuple en Jordanie, que j'ai connu autrefois, donc, en composant une grande partie de Palestiniens, soutient, bien sûr, soutient. Ce n'est pas la question de soutenir l'Iran, mais comprend très bien qu'il faut que, ayant eux-mêmes perdu leur patrie pour venir en Jordanie, eux-mêmes ont besoin qu'il y ait un État, un peuple solide, que ce soit l'Iran, que ce soit la Turquie, que ce soit la Syrie, la Grande Syrie, que ce soit le composé du Liban, enfin, bien sûr, de la Syrie actuelle, et de la Palestine, qui est leur patrie, finalement, qui est la grande patrie. Vous voyez, tout ceci fait que les réalités doivent l'emporter sur les idéologies, les idéologies qui la faussent. Et je crois que là, cette abondance de félicitations, c'est-à-dire envers M. Ebrahim Raisi, manifeste justement simplement un sens commun, c'est-à-dire un sens réaliste. Et disons, aussi ce qui rassure c'est les dirigeants et les peuples, c'est que l'Iran soit fort. On ne peut pas, disons, dans l'orage que nous subissons internationalement, avoir compté sur des voisins qui sont affaiblis. Il faut donc que l'Iran, disons, manifeste sa force, s'engage, bien sûr, et nous-mêmes, en Europe, nous aurions besoin d'une telle force. Et de même que l'Iran aurait besoin que l'Europe, par exemple, la France en premier, mais ils ont la France, l'Allemagne, tous les pays européens, ils ont manifesté cette indépendance et continuent la tradition qu'ils avaient autrefois d'entretenir avec ce pays depuis le 19e siècle des rapports qui étaient des rapports normaux, indépendamment, disons, des politiques anglaises et russes à l'époque, qui étaient politiques expansionnistes. Voilà exactement comment nous voyons la situation. Et bien sûr, nous ne pouvons qu'appeler de nos voeux, justement, ce triomphe du réalisme sur les fausses idéologies et les mensonges médiatiques.
Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci également à M. Philippe Hugon, reporter de guerre, qui est avec nous depuis Paris, qui avait fait vivre le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que la décision de Téhéran de produire des plaques de combustible en raie de silicium en utilisant de l'uranium enrichi à 20% était à des fins pacifiques dans le réacteur de recherche de Téhéran, à notant que l'Agence internationale de l'énergie atomique a été informée de cette décision. Saïd Khatibzadeh a fait ses remarques en réaction à une déclaration des ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne qui ont exprimé leur inquiétude quant à la décision de Téhéran de produire la première plaque combustible en frais silicure utilisant de l'uranium enrichi à 20%. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a réfuté la déclaration tout en disant « Conformément aux procédures en vigueur, nous avons déjà informé l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, de cette question. » Contrairement aux affirmations de ces pays, ce produit bénéficie d'applications pacifiques, pharmaceutiques et humanitaires et sa production n'est en aucun cas en contradiction avec les engagements de non-prolifération nucléaire et des garanties de l'Iran, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le processus de production fait partie des mesures correctives nucléaires que l'Iran a commencé à prendre en 2018, un an après que les États-Unis ont quitté l'accord nucléaire de 2015. Washington a ensuite réimposé ses sanctions illégales contre l'Iran. Le trio européen s'est plié aux interdictions en arrêtant leur commerce avec Téhéran. Khatibzadeh a déclaré que les pays européens accusaient l'Iran de violer ses obligations dans le cadre du plan global d'action co-conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien, alors qu'eux-mêmes n'avaient jamais dépassé les monts dans la mise en œuvre de leurs propres obligations. Les pays se sont alignés sur la pression oppressive des États-Unis en appliquant les sanctions extraterritoriales et illégales américaines, a-t-il déclaré. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également abordé la critique incessante et similaire du département d'État américain à l'encontre de la République islamique d'Iran, la qualifiant d'inacceptable. Il a souligné que les statu quo entourant le plan global d'action conjoint était le résultat des propres mesures illégales et unilatérales des États-Unis, affirmant que l'administration du président Joe Biden avait maintenu la politique de pression maximale défaite de son prédécesseur de Donald Trump contre le peuple iranien. Personne ne devrait s'attendre à ce que l'Iran respecte unilatéralement ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire alors qu'il subit une pression énorme des sanctions, a déclaré Khatibzadeh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a toutefois réitéré la position de Téhéran selon laquelle il arrêterait ses mesures correctives et rétablirait sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique comme avant, dès la levée des sanctions. Le corps des gardiens de la révolution islamique s'est équipé de nouvelles armes de défense stratégique et moderne. Une gamme d'armes et d'équipements de défense stratégique et moderne a été livrée aux forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique en présence du général de division Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI. Le commandant des forces terrestres du CGRI, le général de brigade Mohamed Pokpour, un groupe d'autres commandants officiels experts de haut niveau des forces armées, était également présent à la cérémonie de livraison. Cette large gamme d'armes et d'équipements militaires modernes comprend divers drones, des missiles à guidage de précision, des missiles capables de frappe précise, des hélicoptères de combat, des systèmes de missiles anti-chars et des véhicules blindés. Parmi les équipements dévoilés figure une nouvelle version du missile anti-char allemand, c'est d'une portée de 8 km ainsi que le KM de 114, un missile anti-char d'une portée de 10 km capable de détruire des cibles mobiles avec une variété de détecteurs thermiques et lasers. Un ensemble de véhicules polyvalents et d'artillerie a également rejoint la force terrestre du corps des gardiens de la Révolution islamique dans la section logistique de combat. L'Iran a atteint l'autosuffisance dans la fabrication d'équipements militaires indispensables au cours des dernières décennies, alors qu'il était sous de sévères sanctions de la part de l'Occident. Les responsables iraniens ont assuré à tous les pays, dont les voisins, que la puissance militaire iranienne est uniquement au service de la défense de l'intégrité territoriale du pays et de la promotion de la stabilité et de la sécurité régionale. Hezbollah irakien, pas question de viser les missions diplomatiques et la résistance se poursuivra. Le responsable de sécurité des brigades du Hezbollah irakien, Abu Ali al-Askari, a démenti tout lien des brigades avec le ciblage des missions diplomatiques, confirmant la poursuite de la résistance jusqu'à ce que le dernier soldat occupant quitte le pays. Dans son communiqué, Abu Ali al-Askari a souligné que les brigades du Hezbollah irakien rejette et refuse toute attaque contre des missions diplomatiques dans le pays, soulignant qu'elles sont toujours engagées sur cette décision de ne pas bombarder le camp de l'ambassade américaine du Mali et de ne cibler que les forces de l'armée d'occupation et ses bases militaires. Et de poursuivre, la décision des brigades de cibler les forces armées américaines est une pure décision irakienne et elle ne cessera que jusqu'au dernier soldat des forces d'occupation. M. Askari a appelé les frères de la résistance irakienne à préserver les règles d'engagement et à ne pas brûler les étapes de la bataille, soulignant que la riposte à toute attaque contre la résistance sera sévère. L'ambassadrice de France est fustigée par des journalistes et des tweeters libanais. Le rédacteur en chef du quotidien libanais Al-Akhbar, Ibrahim Al-Amin, a recadré un griot, l'ambassadrice de la France au Liban, dans son éditorial publié ce jeudi. Il n'est pas le seul. Ses agissements et ses déclarations au pays du Sèvre lui ont valu bien des critiques sur les pages des journaux et les réseaux sociaux, selon en fait le site d'information libanais Al-Manar. Il avait le mardi 6 juillet grondé le Premier ministre par intérim Hassan Diab, qui avait organisé une rencontre avec des ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques étrangères pour mettre en garde que le Liban se trouve au bord du désastre et demander l'aide de la communauté internationale. Elle s'est interrogée contre une phrase de M. Diab dans laquelle il a dit que le peuple libanais payait le prix du siège imposé au Liban pour riposter violemment. Cet effondrement est le résultat prémédité d'une mauvaise gestion et d'inaction depuis des années. Il n'est pas le résultat d'un siège extérieur. Vous tous en assumez la responsabilité, ainsi que toute la classe politique qui s'est succédée. La transmission de son intervention ayant été interrompue, elle a tenu à en transmettre la teneur via une vidéo journaliste. La France se comporte comme si elle est le premier porte-parole du dossier interlibanais. Elle se comporte comme elle détient toutes les cartes qui lui permettent manipuler tout le monde au Liban. Elle considère qu'il lui suffirait d'avoir des contacts politiques avec le Hezbollah pour que celui-ci accepte cette perception, a fustigé Ibrahim Al-Amin, le rédacteur en chef du journal Al-Akhbar, et d'ajouter il y a une certaine arrogance répulsive de la part des Français, et il le souligne comme quoi ils accordent à la résistance au Liban la bénédiction de dialoguer avec elle, alors que la communauté internationale refuse de le faire. Selon Al-Amin, le problème de la France est qu'elle n'a rien appris au passé colonial, ni des tentatives de recolonisation directe depuis 40 ans. La France, voire de pire en pire, les Français envisagent-ils un instant que c'est la résistance au Liban qui leur accorde la faveur de parler avec elle, s'est-il interrogé. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.